Au-delà de la glace,
ça sera pas une année normale, même si on arrive à le faire.
Au-delà de la glace,
et puis malheureusement, bah, on a eu cet autre coup de massue qui nous a fait arrêter la saison.
Au-delà de la glace,
l'année 2021 est difficile pour nous.
Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Aujourd'hui, nous souhaitions évoquer le sujet global du hockey, c'est-à-dire à la fois la fédération, les équipes de France et un petit peu la Magnus. Quel est l'impact du Covid sur l'ensemble du hockey français? Et ce podcast se fera en deux parties. Dans un premier temps, nous avons la chance de recevoir Christine Duchamp, DTN de la Fédération française de hockey sur glace. Bonjour Christine.
Bonjour.
Dans une deuxième partie, nous recevrons des patrons de clubs, des général managers, des directeurs sportifs pour nous parler un petit peu plus précisément de la Ligue Magnus. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Christine, le Covid, la crise sanitaire en tant que telle a compliqué les choses. Je voudrais qu'on fasse un premier point sur la Fédération française de hockey sur glace. L'impact, il est quand même important sur ne serait-ce que les licences aujourd'hui.
Oui, en effet, l'impact est là. Hein, comme tous, on subit les conséquences de la crise sanitaire. Alors, si on se compare à d'autres sports, on n'est pas les plus en difficulté. On sait que les sports de combat sont très touchés. Je pense à nos amis de la lutte, notamment, qui ont perdu énormément de licences, lutte, judo, tous les sports de combat. Nous, on encaisse une baisse aussi. Alors, les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais on s'attend à une baisse de l'ordre de 15% sur cette saison. On verra un petit peu, forcément, la reprise va être déterminante selon quand est-ce qu'on reprend, comment on reprend. Mais effectivement, on subit, nous aussi, cette baisse de licences.
Et cette baisse de 15%, forcément, ça va avoir un impact sur le budget de la fédération et donc des actions qu'on peut mettre en place à partir de la saison prochaine.
Alors, effectivement, parler de budget en ce moment est très difficile pour nous tous parce qu'on revoit notre copie, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais très très souvent. 2021, on n'a pas beaucoup de visibilité. Ce qu'on a appris ces derniers temps, c'est qu'il faut s'adapter en permanence. Donc on n'est plus dans le même timing qu'on l'était. Et je vous avoue, aujourd'hui, de parler 2021 est difficile pour nous.
Juste 2021 pour la fin de la saison 2020-2021 ou vraiment même 2021-2022 parce qu'il y a des échéances qui arrivent et on va y venir.
Alors, oui, forcément. Enfin, si on parle en termes de budget, on parle sur un exercice, donc sur une année civile. Donc, c'est l'ensemble de l'année 2021 où on est un petit peu dans l'inconnu. Puis, il faudra qu'on s'adapte. De toute façon, on n'aura pas le choix. On ne sait pas quelles aides de l'État on va avoir par rapport à tout ça. En ce moment, justement, l'État a fait des annonces pour nous aider sur les pertes de licenciés, sur les pertes tout court, les exonérations de charges, etc. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de se projeter sur 2021 de manière assez précise. Effectivement, on craint d'avoir des conséquences sur nos programmes, sur nos actions. Nous, notre objectif et tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de maintenir un maximum de choses avec les moyens dont on disposera. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt dans la crainte. Je pense que tout le monde est un petit peu dans cette période-là, dans l'expectative et puis aussi redoute ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on n'est pas en difficulté. Donc, on essaye de déjà travailler sur ce qu'on est capable de faire en ce moment. Et puis, on va essayer de sauver le maximum de choses, le maximum d'actions pour la saison sportive, la fin de saison sportive et puis la rentrée prochaine.
Vous parliez des aides de l'État. Aujourd'hui, vous n'avez aucune visibilité. Je crois savoir que la Fédération française de hockey sur glace a utilisé le chômage partiel pendant une certaine période. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune visibilité sur ce à quoi vous aurez droit vraiment en tant que fédération. Hein.
Non, enfin, ce dont je parle, c'est sur 2020, on sait où on va, on sait ce qui se passe. Ce dont je parle, c'est l'année prochaine. Vous posiez la question sur l'impact des pertes de licences. Comme on ne sait pas encore l'impact sur la saison sportive prochaine, des pertes de licences, c'est difficile aujourd'hui de savoir, comment on va fonctionner. Donc, avant d'anticiper qu'il va falloir qu'on coupe des actions ou qu'on en fasse moins, il faut qu'on voit où on est. Il faut qu'on voit quel budget on a, quel est le nombre de licenciés, et quelles sont à ce moment-là les aides de l'État en fonction des pertes qu'on aura subies. Peut-être que, à la rentrée prochaine, on aura retrouvé le nombre de licences qui était le nôtre avant la crise. Peut-être qu'on sera en chute libre. C'est difficile de se projeter là-dessus. Donc, c'est simplement par rapport à ça. Aujourd'hui, sur l'exercice 2020, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça.
On a parlé un peu budget, un petit peu crise sanitaire. Je voudrais qu'on se tourne maintenant vers les équipes de France. On a eu ces dernières semaines quelques annonces un petit peu compliquées, à la fois l'annulation des championnats du monde, à la fois pour les femmes et pour les hommes. On a, quand je dis on, le hockey a un objectif très important sur 2021. Dans ce contexte, comment on le prépare avec les équipes?
Alors, c'est vrai que les mauvaises nouvelles se sont enchaînées là, depuis printemps, parce que c'est vrai que les championnats du monde annulés en avril dernier et déjà annulés pour cette saison, ça a été un coup dur, à la fois psychologiquement, parce que les athlètes, les entraîneurs, tous ceux qui travaillent autour des équipes de France, on se projette sur ces échéances et c'est ce qui nous organise dans notre quotidien. Donc ça a été difficile à encaisser. Et puis c'est difficile parce que les championnats du monde conditionnent la préparation aussi à l'équipe, à la préparation de nos athlètes en permanence. Il y a les tournois de qualification olympique en 2021 pour nos deux équipes. Et évidemment que l'annulation des championnats du monde, c'est pas une bonne nouvelle aussi. Par rapport à cette préparation. Alors, dans un premier temps, le premier confinement, on a subi, on a simplement annulé, puis on a attendu de voir ce qui se passait en se disant que c'était juste la compétition qui était annulée, et puis on se projetait sur l'été. Là, on a fonctionné autrement. Alors, on a essayé de changer de stratégie et de se placer, comme on est dans l'incertitude sur la durée des programmes qui sont annulés, reportés, etc. On a essayé de travailler, d'être agile, c'est le mot à la mode en ce moment, d'essayer de trouver des organisations et de travailler plus individuellement, d'être plus dans de la préparation individuelle de nos athlètes, soit en allant dans leur quotidien, dans les clubs, soit en travaillant à distance avec eux, par petits groupes, par groupe entier, en jouant sur différents facteurs. Donc, on a organisé des petits stages ou des actions qui sont soit techniques, soit spécifiques par poste, soit des choses plus tactiques. On essaie de travailler aussi sur la prépa mentale, on travaille sur l'alimentation. On a essayé de rester en contact avec nos athlètes dans cette période et de faire d'organiser notre suivi des joueurs en essayant de trouver une solution pour s'adapter. Si on a une fenêtre qui s'ouvre et qu'on a la possibilité de jouer un tournoi international prévu au calendrier, on le fera. Si on n'a pas la possibilité, on est déjà passé, on a déjà des solutions, des actions qui pourront se mettre en place rapidement. Et puis, on est obligé de revoir la programmation de nos équipes. Donc, on travaille en ce moment sur toute la partie de la détection jusqu'au programme des TQO, parce que on a fait le premier tour du PND masculin, donc c'est le début hein, de notre organisation. Donc il va falloir qu'on voit comment on détecte nos joueurs pour l'entrée dans le collectif U16 la saison prochaine, enfin toutes ces choses-là. Donc on revoit et la programmation et le style, le type d'action qu'on met en place pour préparer nos échéances en août et novembre prochain.
Est-ce que finalement, cette pause un peu forcée, ça n'a pas fait du bien pour se reposer sur revoir les programmes comme vous disiez à l'instant?
Ça, c'est quand on veut voir du positif dans les choses. Donc, je suis quelqu'un qui est positif. Donc, oui, c'est toujours, il y a toujours des choses intéressantes à faire en difficulté. Puis, quand on est dans la difficulté, on sait que dans des crises, il y a beaucoup de choses qui s'inventent, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Donc, on va dire que ça nous permet de créer ou de voir de nouvelles choses, mais on a hâte quand même de retrouver des programmes normaux et de retrouver des stages où on peut jouer des matchs parce qu'il n'y a rien qui remplace une confrontation face à une équipe nationale étrangère. On peut travailler individuellement, on peut faire de la préparation et c'est intéressant du travail de fond, mais les matchs internationaux en compétition. Il n'y a rien qui remplace ça pour préparer nos athlètes.
Alors effectivement, sur la partie innovation, notamment sur le collectif féminin qu'on suit pas mal sur plan de match, ils ont pas mal innové sur des webinaires pendant le premier confinement, sur le suivi des joueuses, effectivement sur le collectif masculin aussi, bah, les mini-groupes un peu obligatoires pour garder ce lien. Je pense que pour les athlètes, ne pas avoir de compétition, c'est aussi quelque chose qui est compliqué parce que quand on gère au quotidien, ne pas avoir de le quotidien entre guillemets, je veux dire l'administratif, le suivi, etc. Ne pas avoir de visibilité, c'est compliqué. Mais pour les athlètes, je pense que c'est d'autant plus compliqué parce que finalement, ils savent pas quand ni comment ils vont reprendre la compétition.
Oui, et puis c'est quelque chose qui est nouveau pour eux, qu'ils n'ont pas l'habitude. Quand on est athlète, on est conditionné, on est organisé autour d'une échéance. Et on fait un rétro-planning à partir de cette échéance. On travaille comme ça, à reculons, on part de l'échéance, le TQO, le championnat du monde, les playoffs de Magnus, selon dans quel contexte on est, le championnat, qu'il soit français ou étranger, on a des échéances et on se prépare par rapport à ça. Là, on a, à part pour les internationaux qui ont le TQO, tout est flou sur les dates et les dates bougent. Et même ça a déjà bougé. Donc, même on peut se dire, ben, les playoffs d'une saison, on ne sait même pas quand ils auront lieu, comment on va pouvoir y arriver. On ne peut pas. Donc, tout ça, je pense, c'est très déstabilisant pour les joueurs. C'est quelque chose qui est pesant. Je pense que le premier confinement a surpris, puis finalement, justement, il y avait un côté, oh, c'est extraordinaire. Là, cette deuxième vague, cette deuxième période, je pense qu'elle est très difficile pour les joueurs. C'est difficile de se projeter. Alors, il y a ceux qui jouent à huis clos. C'est super bizarre de jouer à huis clos. Et puis, il y a ceux qui s'entraînent uniquement. Et dans un sport, il y a peut-être des sports qui ont l'habitude d'avoir une longue période d'entraînement, un match après, une compétition après. Pour nous, enfin, on ne sait pas faire. On a l'habitude de matcher tous les week-ends, voire plus. Donc, c'est vrai que c'est perturbant maintenant. Un sportif de haut niveau, hein, une de ses grandes forces et qualités, c'est de s'adapter. Il s'adapte en permanence. Donc, moi, j'ai confiance dans cette adaptation et je pense que les joueurs, les joueuses vont être capables de trouver des nouvelles ressources, des choses qui vont leur permettre, malgré tout, de performer.
Avant de passer à la Ligue Magnus, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur la préparation mentale. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans pas mal de sports. Je sais que la fédération a commencé, mais a commencé un travail notamment avec le collectif masculin. Je sais que le collectif féminin regarde aussi. C'est une demande des joueurs ou des joueuses ou c'est quelque chose plus global que vous pensez nécessaire pour peut-être passer une étape? Parce que le TQO, c'est crucial pour, j'allais dire, l'avenir du hockey en termes de médiatisation, en termes de notoriété.
Alors, c'est pas nouveau qu'on travaille sur cette dimension-là, parce que ça fait assez longtemps qu'on travaille avec soit des psys, soit des préparateurs mentaux. C'est plus récent pour le collectif senior masculin. À l'arrivée de Philippe Bozon à la tête de l'équipe, moi, c'est la période où j'ai pris mes fonctions, donc il y a une petite période de transition où on n'a pas pu tout mettre en place tout de suite avec Philippe. Mais ça fait partie de notre discussion, notre première discussion. On a abordé cet aspect-là. Donc, c'était une volonté commune. C'était une demande de Philippe, mais qui correspondait à ce que moi j'avais en tête. J'ai travaillé avec une psy quand moi j'entraînais. Le groupe féminin travaille avec depuis un petit moment déjà. Alors, pas forcément l'équipe de France Senior en stage, mais c'est justement, on a une stratégie qui est plus sur du long terme et plus au quotidien que sur un événement. Et donc, dans le groupe masculin, on l'a mis en place petit à petit. Effectivement, on travaille avec, alors plus particulièrement le collectif senior masculin, pour l'encadrement et les joueurs. Et puis sinon, c'est avec les cadres qu'on travaille sur cette dimension pour après porter ça dans les différents collectifs.
Ce sera le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, la Ligue Magnus. Et vous l'avez évoqué, comment on se projette sur les playoffs, etc. J'aurais deux points à voir avec vous. Le premier, c'est en termes de calendrier. On entend dire une reprise aux 5, aux 20. C'est assez flou. Alors, on l'évoquera dans notre deuxième partie avec les présidents, enfin, en tout cas, les directeurs sportifs ou les general managers de quelques équipes de Magnus. Mais la fédération a quand même été plutôt au front pendant cette période pour essayer d'obtenir quelque chose du gouvernement pour les clubs. Je pense que ça n'a pas été simple. Quelle est votre vision et surtout quand est-ce qu'on va pouvoir retourner, en tout cas pas retourner, mais avoir des matchs plus réguliers en Magnus?
Alors, effectivement, alors par rapport à la deuxième question, quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver les matchs? Un des principes qui a été acté assez rapidement pour la Magnus, c'est qu'on ne fait pas de match à huis clos parce qu'on n'a pas une économie qui nous permet de jouer à huis clos. On voit les sports aujourd'hui qui continuent. Qui ont continué ou commencé leur activité à huis clos, c'est tous les sports qui sont présents à la télé, qui peuvent vivre des droits télé. Alors, c'est pas facile parce que vous imaginez, j'imagine moi le foot qui a un club qui remplit, qui a, je sais pas, 30 000, 40 000 spectateurs en moyenne, malgré les droits télé, cette perte de billetterie, elle est conséquente. Pour nous, c'est la seule rentrée d'argent en Ligue Magnus, la billetterie. Quasiment. Donc aujourd'hui, jouer à huis clos économiquement, c'est pas possible. Donc on a simplement, la fédération a travaillé avec les clubs à travers la commission Magnus pour voir comment jouer quand même quelques matchs pour maintenir, donner quand même un petit peu de hockey au public, donner un petit peu de hockey aux fans et puis garder aussi un peu pour le moral. Je pense que c'est bon pour tout le monde, les matchs qui ont été joués ces derniers temps. Donc, mais simplement jouer avec les clubs qui étaient volontaires, qui voulaient bien les mettre en place parce que économiquement, c'est compliqué. Donc, la fédération essaye de travailler. Travaille fort pour soutenir les clubs, pour que la Ligue Magnus, pour que ces clubs-là vivent et qu'on amortisse le plus possible les effets négatifs là, de cette crise pour la Ligue.
5 ou 20 janvier, le retour.
Alors, ça va dépendre des annonces de l'État. Si, à quel moment on va pouvoir jouer avec du public? Aujourd'hui, ça sent. Les annonces qui avaient été faites, c'était à partir du 20. Donc, c'était les annonces qui étaient faites. Donc, pour l'instant, on se projette plutôt sur le 20 janvier. Mais si le retour du public arrive avant, voilà, peut-être. Mais je pense aujourd'hui que c'est conditionné à ça.
J'ai une dernière question. J'ai coutume de dire que le sport et la culture, c'est très important. Globalement, d'ailleurs, on ne parle pas assez de sport dans notre pays. On a eu l'occasion d'échanger avec les joueuses qui évoluent en Finlande et qui nous expliquaient que, en termes de culture, en termes d'infrastructure, ça n'avait rien à voir. Et pourtant, la Finlande, c'est 6 millions d'habitants. Donc, il y a aussi la partie culture. Et on a une question qui revient régulièrement dans notre podcast. Est-ce que vous avez un livre ou un film qui vous a marqué ou que vous lisez en ce moment et que vous souhaiteriez conseiller à nos auditeurs?
Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Chaudin, La montagne blessée, qui est écrit par Luc Bronner, qui était dans ma classe à l'école. Quand on était enfant, on était dans la même classe. Donc, c'est un garçon de mon village qui aujourd'hui est directeur des rédactions au Monde et qui a sorti un livre sur Chaudin, un petit village abandonné qui est en Champsaur, donc la vallée où on a grandi. Donc j'ai commencé son livre cette semaine, donc j'ai pas encore d'opinion sur son livre. Je vais pas vous dire qu'il est extraordinaire tout de suite, je vais attendre un petit peu. Mais voilà, je vous conseille le livre de Luc pour les fêtes, un joli cadeau de Noël pour vos proches avec Chaudin.
Eh bien, ça fait une transition parfaite avec notre deuxième partie, et puisqu'on va recevoir Sébastien Auprandi de Gap, et effectivement, je ne l'ai pas noté, vous êtes originaire des Hautes-Alpes. C'est un département qui me tient à cœur, puisque moi-même, j'ai une partie de mes origines du côté de Briançon. Alors, Briançon-Gap, c'est un peu le derby, mais voilà.
Non, non, on est unis contre le reste du monde, Gap et
Les
moi.
Hautes-Alpes. Merci Christine, merci beaucoup.
Merci.
Nous venons de recevoir Christine Duchamp et nous la remercions pour son temps. Nous voulons maintenant faire un focus un peu plus précis sur la Magnus. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui trois invités de marque, de trois clubs de Magnus. Dans un premier temps, nous avons Stéphane Tartari, le général manager des Boxeurs de Bordeaux. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour à tous.
Et puis, on s'est dit que, il fallait un petit peu équilibrer. Donc, on a également le général manager des Rapaces de Gap, en l'occurrence Sébastien Auprandi. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et on avait besoin aussi d'avoir la vision du dernier arrivé en Ligue Magnus, dans cette saison qui est quand même très particulière pour tout le monde. Et donc, nous avons la chance d'avoir Christophe Cuzin, qui est également le général manager des Jokers de Cergy. Bonjour Christophe. Cette
Bonjour,
saison
bonjour à tous.
2020-2021 est quand même très particulière. La fin de la saison 2019-2020 avait été aussi très particulière. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comment on vit cette saison quand on est général manager d'une équipe alors qu'on n'a aucune visibilité jusqu'à maintenant?
Ben, c'est de plus en plus compliqué. C'est vrai qu'au début, ben, ça va, on se dit ça va basculer du bon côté, le public va revenir, les partenaires. On était reparti plus. C'était fin septembre, c'était quand même pas si mal, malgré qu'il y ait seulement 1 000 personnes. On a remarqué qu'on avait du mal aussi à vendre quand même nos places. Les gens avaient du mal à faire le pas d'acheter le billet. Ils étaient peut-être dans un mode bon, on va faire attention, on va pas trop sortir. Mais malgré tout, nos partenaires étaient présents. L'ambiance n'était pas si mal pour un tiers de la patinoire remplie. Les joueurs trouvaient ça quand même plutôt sympa. Et puis, bah, c'était parti. Et puis, malheureusement, bah, on a eu cet autre coup de massue qui nous a fait arrêter la saison. Et puis, ben, il a fallu s'entraîner, garder le moral. Je pense qu'il faut aussi garder le moral, être positif, malgré tout ce qui se passe. Montrer la voie aussi aux joueurs, que ce soit surtout le staff, parce que les joueurs n'ont pas vraiment d'objectif pour l'instant. Ils s'entraînent et ils travaillent dur. Donc ça, je tiens à les féliciter chez nous. Je sais que la plupart, tout le monde a souligné le professionnalisme de nos joueurs, d'être motivés et de venir. Ne sachant pas quand est le prochain match. Donc, oui, vraiment pas simple, mais on espère que le 20 janvier, tout va repartir, pas normal, bien sûr, mais avec du public. C'est sûr que les fêtes, on espère que tout le monde va prendre conscience de faire attention pour pas que les chiffres repartent à la hausse et que la deadline soit repoussée et puis que ça nous remette dans les difficultés.
Et du côté de Cergy, on avait un peu anticipé une saison compliquée en termes de budget. Comment ça s'est passé au début?
Alors, oui, on l'a anticipé, mais nous, on est un peu un cas particulier parce qu'en fait, quoi, il me semble, d'une part, on est toujours association. Donc, le HCCP, c'est à la fois l'équipe pro et le mineur. C'est donc une très grosse machine puisque c'est plus de 540 licenciés. Et en plus, on a une section roller, donc c'est plus de 600 licenciés. Alors, pour parler de l'équipe première et donc de la Magnus, là où on avait anticipé, c'est que on avait anticipé de deux façons. La première, en se disant qu'il fallait être raisonnable, qu'en termes de billetterie, qu'en termes de sponsoring, bah, même si on pouvait escompter un effet Magnus, il fallait se calmer par rapport à ce qu'on avait fait en D1. Pour autant, on ne pouvait pas non plus se dire on va raisonner avec les mêmes budgets qu'en D1, parce que sinon on allait faire ce qu'a fait Briançon, c'est-à-dire pas gagner un match ou presque pas. Et voilà. Et donc ça, il n'était pas question, puisque pour nous c'était une année de construction, mais où le premier objectif était quand même d'affirmer notre légitimité dans la division. Et ça, par rapport à l'ensemble de nos parties prenantes. Donc ce qui veut dire que on a quand même construit un budget à la hausse de plus 15% globalement. Et donc avec des prévisions quand même supérieures en billetterie, etc. Même si on a cherché à être assez prudent, mais on pouvait pas, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a abordé, on pouvait pas se dire qu'on allait baisser les budgets, parce que là c'était en plus on a il y a un pôle espoir, il y a une académie, donc on a un certain nombre de moyens investis dans l'encadrement qui font que ça, ce sont pas des variables d'ajustement, c'est pas possible. Donc la seule réelle variable d'ajustement, c'est la masse salariale joueur, et ça on sait qu'à un moment donné on le paye dans les résultats, donc dans les spectateurs, et puis voilà. Et donc ça, il en était absolument pas question, donc il fallait trouver le fil de crête. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que, voyant ce qui se passait, on a réajusté notre politique tarifaire en termes de billetterie.
Ce réajustement a fait un petit peu débat. Il y a beaucoup sur les réseaux ou autres des personnes, des fans, des supporters qui n'ont pas forcément compris. Mais mine de rien, tous les clubs l'ont fait à Gap sur des matchs de Coupe de France. Je pense que la tarification va être revue probablement pour l'ensemble des clubs quand on aura un calendrier clair qu'on n'a pas. Justement, à Gap, je sais qu'on a eu ces échanges, c'est compliqué économiquement, comme dans tous les clubs. Comment on traverse cette période actuelle ? Parce que Gap n'a pas joué depuis peut-être le 16 octobre.
Le 20. Le 20, le match de Coupe de France contre Briançon. Comment on traverse ? Pour revenir un petit peu à ce que tu demandais juste avant aux autres, nous, on a, j'ai envie de te dire, c'est un long feuilleton avec plein de rebondissements, plein d'histoires. Depuis le mois de mars, il s'est passé énormément de choses, beaucoup de plans différents, beaucoup de solutions différentes. Alors au début, on essaye de se dire il faut qu'on maîtrise la situation et on doit appréhender et prévoir les choses. Et plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il y a une grande partie des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, on arrête de s'affoler à faire 25 plans, 25 formats de championnat. On voit que de toute façon, la fédération a bien pris ça aussi en main et a voulu être le fil conducteur et nous orienter dans une direction et essayer de trouver une solution qui aille à la majorité. Nous, très longtemps, on se posait la question de savoir, alors ce qui a été mis en place au départ, c'était tout simplement de dire que notre championnat pourra se jouer uniquement si on était avec des capacités pleines, avec des masques. Ça a duré, cette solution-là a duré jusqu'à la fin de l'été, c'est-à-dire jusqu'à fin août. Donc, ça nous donnait une ligne de conduite pour l'ensemble des clubs pour se dire, dans nos prévisionnels, on va partir, on va sans doute raboter un petit peu la billetterie parce qu'on imagine que rentrer 3000 personnes dans la patinoire, ça sera quand même compliqué. Il y aura une appréhension. Les partenaires, ça va sans doute réduire. Donc, je pense que la majorité des clubs ont coupé à peu près 20% de leur budget. C'était notre cas. Mais là, on est rendu au mois de pendant l'été. Et la variable d'ajustement, c'était est-ce qu'on change la formule ou pas. Donc, ça fait partie des rebondissements qu'il y a eu finalement. On est resté sur cette formule-là parce que la réalité de Cergy, Bordeaux, Gap, Grenoble ou Nice est complètement différente. Ça aurait été une bonne solution pour certains, pour d'autres, ça aurait été catastrophique. Donc, je pense que ça a été toujours de trouver un consensus. Et là où la façon qu'on gère les choses, pour revenir à la question que tu me poses à l'heure actuelle, nous, la question, c'était quand il n'y a pas la réponse, on nous dit de jouer avec, on allait toucher des aides qui allaient compenser le fait qu'on joue à huis clos. Puis après, on nous disait que ça ne compenserait pas tout. Puis dans l'incertitude et avec la situation que des années passées, le club de Gap n'a pas voulu prendre de risques. Et on s'est dit, on va se mettre en chômage partiel à 100%. De toute façon, on n'a pas d'activité, on renvoie tout le monde chez eux. Donc pendant un mois, les gars n'ont pas touché à la glace. On a rattaqué à partir du 1er décembre les entraînements sur glace. Notre vision, c'était au début novembre que si on avait une chance de rejouer, c'était pour les fêtes de Noël. Donc, on aurait besoin de 3 semaines pour se remettre en jambes. Et la plupart des clubs ont continué à patiner pendant ce temps-là. Je pense que nous, ça a été dur de s'en écarter, mais à quelque part, on revient et on a un esprit plutôt frais là, en ce moment. Ça va faire 2 semaines qu'on s'entraîne. On joue contre Nice dimanche là, en championnat. On a joué à Grenoble le week-end dernier. Donc, j'ai envie de te dire qu'on essaye de passer comme tout le monde en essayant d'adopter ce qui nous semble le mieux pour notre situation. C'est-à-dire on essaye d'être le plus transparent possible avec les gars aussi. Alors, on essaye. On est complètement transparent sur la situation. On leur explique les enjeux financiers. Sportivement, les perspectives que l'on a. Alors, des fois, ça peut être anxiogène, mais en même temps, ils comprennent aussi. Parce que chacun a adopté des stratégies un petit peu différentes. Et puis, écoute, ça se passe plutôt bien. On pense qu'on a adopté la stratégie qui nous convenait le mieux. Et on est plutôt dans une dynamique positive. Là, on a joué le week-end dernier, ça fait un bien fou. Contre Nice, de pouvoir disposer de sport en France, c'est une belle opportunité de visibilité pour nos partenaires et pour tous nos fans de pouvoir nous voir gratuitement. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité se faire match chez nous là. Et après, on est tous en train de spéculer hier soir encore pour savoir quelle va être la formule et est-ce que la formule, le plan prévu pourra s'appliquer ou pas.
Effectivement, je pense que cette approche de saison, elle a été moins sportive et beaucoup plus une vision économique, et donc c'est parfois un peu compliqué. Et c'est intéressant ce que tu me dis parce que chaque club a eu son approche. Et justement, au moment où le confinement est tombé, j'ai pu échanger avec pas mal d'entre vous et j'ai appris que Bordeaux, notamment, avait décidé de jouer sur Sport en France. Ça faisait partie de la stratégie, j'imagine, de mise en lumière du club, mais ça a un coût.
Alors, pour revenir à ça, c'est vrai que c'est la première année que la fédération avait travaillé aussi avec Sport en France pour que notre sport soit à la télé et, comme dit Seb, gratuit, avec des moyens qui sont plutôt très bons, puisqu'on a vu les résultats avec plusieurs caméras, des interviews pendant les tiers, des préparations d'avant-match. Donc nous, il y a eu un gros travail de notre président et du club avec France 3 NOA sur la région, pour savoir s'ils voulaient s'associer au projet avec Sport en France pour justement participer au coût. Donc c'est vrai, nous, on va être diffusé plusieurs fois pendant la saison, et c'était notre premier match contre Anglette. Voilà, donc on ne voulait pas passer à côté de cette opportunité, c'est vrai pour nous, mais aussi pour tout le travail qui avait été fait de la fédération, un peu de tout le monde. On en a parlé justement avec les clubs et on s'est proposé. Puis Anglette a accepté de venir jouer chez nous. Donc je pense que c'était plutôt une bonne chose, comme le disait Eric Ropert, pour tous les fans de hockey, les enfants qui ne peuvent pas jouer depuis un mois et demi. Enfin, tout le monde a pu voir un peu de hockey justement gratuitement à la télé avec des bons moyens. Donc ça a été notre première motivation. Aussi derrière, on a pensé à nos joueurs. C'est vrai, puis leur donner un petit objectif de match. Bon, ça ne nous a pas réussi, hein. Malheureusement, on a perdu ce match. Mais on remarque bien que quand on n'a pas de rythme, c'est compliqué. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. La qualité des matchs était bonne, mais n'a rien à voir avec une saison régulière où ça enchaîne au niveau de l'intensité. Mais bien sûr, il n'y avait pas de public, donc ça joue aussi un petit peu dans l'intensité, dans l'engagement. Mais en tout cas, ça a été, je pense, une réussite. On voit les matchs de Briançon, la même chose, à Nice. Et là, on va avoir encore 2 matchs ce week-end à Anglette. Enfin, je pense que c'est plutôt bien pour notre sport qui commence à être médiatisé. Et il ne fallait pas rater l'occasion cette année, malgré tout ce qui se passe, de pouvoir être télévisé. Donc nous, on a fait juste un match. Et puis les autres ont pris le pas, donc c'est très bien. Puis je pense que ça va s'arrêter justement après le match de Gap, Gap-Nice. Et on espère reprendre, voilà, la fédération en train de travailler dessus avec les clubs sur le mois de janvier. Pour l'instant, il n'y a aucune information. Mais c'est vrai que moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. L'enjeu, il est vraiment… Alors, il est sportif, bien sûr. On est des compétiteurs. Les coachs et les joueurs sont des compétiteurs. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de finir notre saison régulière, de faire nos matchs à domicile, puisqu'on a signé des partenariats avec 22 matchs. Bien sûr, déjà, nous, on en a joué un à huis clos, mais on se rappelle malheureusement l'année dernière le mauvais épisode avec Lyon. Donc, deux matchs qui ont sauté et on va dire que c'est passé. Hein, nos partenaires ont accepté, nos abonnés aussi ont accepté de ne pas avoir ces deux matchs, malheureusement. Bon, si un ou deux matchs, trois matchs maxi, obligé de les jouer à huis clos, je pense que ça peut être entendu du côté de nos partenaires et nos abonnés, même si c'est pas évident, justement pour faire au moins une vingtaine de matchs à la maison et honorer nos contrats et finir le mieux possible la fin de saison pour que l'an prochain nos 12 clubs soient en Ligue Magnus et qu'on reparte, on va dire, sur des bases normales, quoi. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de faire notre saison régulière, d'honorer nos contrats, hein, que ce soit aussi nos joueurs, nos salariés et nos partenaires et abonnés, et puis faire les comptes en fin d'année et être le mieux possible pour repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe et Seb.
Non, on est d'accord. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. C'est fondamentalement, il faut juste créer les conditions pour que on pénalise le moins possible la saison prochaine. Ça devient ça l'objectif numéro un de cette saison. Et puis voilà. Et après, on a un groupe à gérer. Et c'est bien ça le paradoxe, c'est-à-dire que on a moins d'enjeux sportifs avec juste un groupe qu'il faut maintenir, qu'il faut motiver. Ça, c'est le boulot des coachs, mais c'est vraiment un contexte très, très, très particulier, très compliqué. Hein, je crois que moi, le mien, je pense qu'il en est à 100 plannings de fait, il en a plus que rien à la casquette, et pour peu, on n'a pas fini. Mais effectivement, je suis totalement d'accord avec Stéphane. L'enjeu, il est effectivement de préserver le minimum de plumes pour que l'année prochaine, on soit bien 12, à peu près en forme, ou pas trop cabossé, on va dire, pour que ça soit aussi qu'on soit à peu près en condition pour rentrer là enfin sur une vraie saison. Et par exemple, nous, Sergi, cette année, c'est une année blanche et notre année zéro, en fait, c'est l'année prochaine. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aborde le
Vous
futur.
Avez une idée des audiences sur Sport en France, à peu près?
Non. En fait, c'est une question qu'on a posée en réunion hier et on aura des quelques informations, peut-être un de ces jours, mais voilà, on n'a pas.
Et pourquoi Sergi n'a pas voulu jouer? Parce que j'étais très surpris. Alors, j'ai vu Bordeaux, on l'avait échangé, Anglet, c'est le derby, c'est pas mal. J'ai vu Briançon et puis j'ai même vu Gap. Et pourtant, quand je discutais un petit peu avec Sébastien, et je le comprends, hein, chaque situation est compliquée à gérer. Quand j'ai vu au planning des clubs comme Briançon, comme Gap, comme Anglet, comme Nice, comme Bordeaux, alors j'en ai pas vu d'autres, hein. J'ai pas vu Grenoble et j'ai pas vu Sergi. Mais pourquoi?
Pour deux raisons. D'abord la raison économique et une deuxième qui est sportive. La raison économique, c'est que moi j'ai estimé que tout huis clos officiel, donc qui venait enlever des matchs à nos partenaires, à nos abonnés, moi j'ai estimé qu'un match huis clos nous coûtait en manque à gagner 39 000 euros. Et donc par rapport à l'objectif dont je parlais il y a quelques instants, c'était tout match huis clos nous éloigner de l'objectif. Donc ça, c'est le principe de départ. Et d'un point de vue sportif, faire un match de championnat, donc un match officiel, c'est entre 15 jours et 3 semaines de préparation. Et le groupe dont je parlais, la problématique de dynamique de groupe, etc., moi, avec le coach, on n'a pas voulu endormir, réveiller, rendormir le groupe Sachant qu'effectivement, nous aussi, on utilise le chômage partiel. Alors, pas exactement comme Gap. Hein. Nous, on a eu des périodes où on est descendu à 6 heures par semaine, mais il y a toujours eu la possibilité de toucher la glace, mais à minima. Et donc là, brutalement, réveiller le groupe, et puis le rendormir, etc., on s'est dit que ce n'est pas une bonne idée. On n'avait pas l'enjeu de Bordeaux. Hein. C'est-à-dire que nous, il n'y a personne qui vient nous demander de faire de la télé ici. Hein. FR3, on n'existe pas. Hein. Donc, en revanche, c'est vrai que si on avait le calendrier normal, on avait deux matchs télévisés, dont un contre Gap, si je me rappelle bien, un contre Rouen. Ces deux matchs-là, en huis clos, on les a refusés. On les a déclinés puisqu'on avait la permission de le faire. À partir de là, on va rentrer dans une deuxième phase où là, si on joue et qu'on est au calendrier, on assumera ces matchs-là télévisés. Mais c'est vrai que ça n'a pas, pour nous, banlieusards, pour l'instant en tout cas, ça n'a pas le même enjeu médiatique. C'est agréable pour nos supporters, etc., certainement. Mais nous, ça va être, par exemple, un coût de production à assumer. Je ne vois pas aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle on est, je ne vois pas un partenaire payé ou une télé X ou Y. On est soit trop petit, et on n'est pas assez gros pour pouvoir monter un deal.
Là, aujourd'hui, et je rebondis sur ce que disait Christophe, c'est une année un petit peu particulière. Enfin, Christophe et Stéphane, d'ailleurs, c'est une année particulière. Ça veut dire pas de relégation et pas de montée à la fin de la saison. C'est ce que vous avez réussi à acter ensemble?
Alors, oui, verbalement, puisqu'on attend toujours la décision du comité directeur de la Fédé. Mais oui, à 99,9%, c'est acté. Je pense que ça aussi, c'est une pas mauvaise. Alors, c'est pareil. Par rapport à la dynamique de groupe des joueurs, on ne l'a pas dit. Parce que, à un moment donné, quand ça va être officiel, ce sera dit. Et ça peut créer un peu de désengagement de certains. C'est le risque. Mais encore une fois, l'objectif, il est économique cette année. Et d'un point de vue économique, c'est plus que raisonnable de dire il n'y a pas de descente. Quoi. Sportivement, parce qu'on verra bien s'il n'y a pas des descentes malheureuses économiques.
Oui, alors ça, c'est effectivement à voir, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de clubs, et peut-être même plus qu'on peut l'imaginer, qui vont souffrir pendant l'été. Sébastien, le match, c'est le 20 décembre. Et après, est-ce que à Gap, on sait déjà... Pourquoi je dis ça? J'ai lu dans la presse un retour au jeu au 20 janvier, mais j'ai aussi entendu qu'il y aurait une période un petit peu d'entre-deux, peut-être de reprise du jeu un peu plus, avec un peu plus d'intensité, entre le 5 et le 20 janvier. Huis clos ou pas, je ne sais pas trop. Télévisé ou pas, je ne sais pas trop. Alors, comment ça se passe? Parce que Gap, on joue le 20 octobre, on joue le 20 décembre. Après, on fait la fête, on essaye, on revient le 5 janvier.
Nous, la stratégie a été de couper justement en se disant qu'on voulait, quand les gars sont sur la glace, on veut être à 100%, on ne voulait pas être en semi-autogestion et à s'entraîner pendant 2 mois. On pensait qu'on allait tourner fou et ceux qui ont réussi à le faire, bravo. Je pense que ça ne devait pas être facile pour tout le monde. Je pense que toutes les situations n'étaient pas faciles. En tout cas, nous, de notre côté, on a rattaqué au premier. Et ces deux matchs nous font du bien. Donc là, on arrive au 20. Ce qui a été le plan qui est suivi depuis quelques semaines, c'est de tous jouer 4 matchs à huis clos, donc 2 à domicile. Je dis le plan parce que il n'est pas communiqué, il a été dit dans quelques journaux par-ci, par-là. Donc, dans ce cadre de jouer 2 matchs à huis clos à domicile chacun, de pouvoir avancer, par exemple, comme nous on l'a fait contre Nice, le match de dimanche, on savait qu'on aurait des matchs à huis clos, autant les jouer devant la télé, et on n'avait pas nos joueurs en vacances à ce moment-là, donc ça coïncidait bien. La Fédé a fait un effort, quand on parle de coûts de production, ils ont assumé les coûts de production pour les matchs qui ont été avancés. Quand tu parlais des efforts que la Fédé a fait, c'est celui-là qui me vient déjà à l'esprit. Pour mettre de la visibilité pour tous les licenciés dans tous les clubs en France, de voir du hockey, c'était important. Et qu'est-ce qu'on fait après le 20? Ben, on va attendre les autres matchs à huis clos qui devraient tomber début janvier. Donc, nous, par exemple, sur Gap, on leur a donné 4 jours de break pour 4-5 jours de break pour Noël. Et derrière, on reprendra comme on s'est arrêté. Donc, je crois que entre le 22 et le 27, ils sont en repos. Et on rattaque après derrière pour être prêt, on imagine, entre le 5 et le 8, rattaquer des matchs.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune... Donc, on est mi-décembre. Vous n'avez aucune visibilité après le 20 décembre sur comment vous allez jouer. Donc, ça veut dire que ça va être le 101e planning de Jonathan. Ça va être...
Non, vas-y.
C'est comment dire, tu vois bien les annonces. On nous parle du 20 janvier, puis derrière, on nous dit finalement, peut-être que le 15 décembre, vous pourrez jouer devant du public. Puis finalement, là, ils nous parlent maintenant du 7 janvier. C'est extrêmement dur à partir sur quelque chose de ferme et concret, surtout à échéance de 1 ou 2 mois. Donc, on était parti sur la date du 20 janvier parce que c'était celle qui avait été clairement dite. Et on a élaboré les plans à ce niveau-là. Donc, tout le monde, je pense, a en tête de pouvoir jouer à huis clos début janvier. Et donc, c'est la visibilité qu'on a. Est-ce que c'est le 5, est-ce que c'est le 8, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, on sait qu'on repart en janvier, sauf si pendant les fêtes, le virus se réactive et remonte. Et là, je pense qu'on prendra, il faudra élaborer un nouveau plan.
Après, Brice, moi, je voulais juste rebondir là-dessus. On voit tous les matchs qui ont été reportés. On voit le nombre de matchs qui restent à faire pour certaines équipes. Il y en a plus que d'autres. À un moment donné, si on se cale sur le 20 janvier, on sait très bien la saison, il va falloir mettre 3 matchs par semaine. Donc, ça va être un rythme infernal. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Les joueurs sont très excités de ça. Ils veulent enchaîner. Pour info, aux États-Unis, en East Coast, des joueurs que l'on va chercher jouent 4, des fois 4 à 5 matchs par semaine. Bon, ça ne leur fait pas peur. Après, nous, on sait très bien les déplacements, la fatigue, l'enchaînement, les effectifs réduits. Ça va être compliqué à gérer, mais on va le faire. Donc, pourquoi aussi début janvier ? C'est pour redémarrer un petit peu, se remettre dans le bain. Parce que d'attaquer d'un coup, du jour au lendemain, 3 matchs par semaine, il va y avoir de la casse. Donc, si on pouvait jouer 1 ou 2 matchs par semaine avant, justement, cette fameuse date du 20, on a souhaité ça. Et faire peut-être, comme il a dit, 2 matchs à la maison, 2 matchs à l'extérieur. Ça nous permet de faire 2 semaines un peu de préparation. On a l'impression que c'est un éternel camp d'entraînement là, depuis 4 mois. Hein. De toute façon, c'est l'impression des gars. Et elle est là, cette fatigue, elle est mentale, puisqu'on a l'impression que ça va repartir et non. Puis on voit des équipes qui font des matchs amicaux, c'est très bien. Nous, on essaye de voir aussi peut-être faire un match fin décembre, début janvier avec une équipe pour se remettre aussi un petit peu dans le bain, parce qu'il y a des choses à recorriger pour les coachs, à remettre les joueurs en condition de championnat. Donc c'est un peu l'idée.
Juste, moi, je voudrais rajouter deux petites choses. En fait, nous, au niveau de Cergy, en fait, on s'est calé donc sur. Alors déjà, effectivement, cette hypothèse de travail, quoi, c'est plus qu'une hypothèse. Hein, c'est une intention, un objectif d'assumer et de réaliser l'ensemble des matchs de la saison régulière. Quitte à jouer avec la fin de cette saison, là, en termes de délai, hein, puisqu'il n'y a pas de championnat du monde. Donc, même si ça, c'est pas encore bien calé entre les différents clubs. Mais ce qui est clair, c'est que à 90%, le championnat reprend la semaine du 4 janvier. Effectivement, comme le disait Stéphane, on aura deux matchs par semaine. Les 2 premières semaines de janvier, ils seront en huis clos. À la maison, à l'extérieur, ça c'est calé. Ce qui fait que nous, par exemple, en termes de prépa, on est déjà en prépa. Alors, on a fait un truc un peu bancal, mais parce qu'on doit aux joueurs 5 jours de vacances, et plus les problèmes effectivement de psychisme, etc. Et donc en fait, nous on a fait une très grosse prépa depuis 10 jours. C'est pour ça qu'aussi on avait 2 matchs de prépa. Et puis là, on les a mis en vacances pendant 10 jours. pour bien qu'ils remontent, qu'ils rechargent des accus. Et puis, on reprend autour du 27 avec un match de prépa le 30. Et puis, pour être prêt la semaine autour du 5 janvier. Après, et normalement, la semaine prochaine, on devrait avoir un calendrier qui recale tout. Donc début janvier jusqu'à, si je ne me trompe pas, mi-avril. Voilà. Et si tout se passe bien, en plus de quoi faire des play-offs normales. Bon. Le seul paramètre sur lequel on ne maîtrise rien du tout, c'est effectivement le retour de la pandémie, la vague 3. Et ça, pour l'instant, effectivement, et là quoi, quand Sébastien dit il y a un moment donné, il faut être philosophe, parce que de toute façon, on n'a pas la maîtrise des choses. Donc, effectivement, moi, par exemple, dans mon esprit, effectivement, ce retour-là, s'il doit avoir lieu, on le saura à la mi-janvier. On ne le saura pas avant, puisqu'on voit bien, il y a toujours 15 jours de décalage dans les données. Bon, on aura déjà fait donc 4 matchs. Et le temps qu'on réagisse, etc., en fonction de la gravité des choses ou de je ne sais pas quoi, on a encore la possibilité, si collectivement on le décide, de décaler cette fameuse saison régulière, quitte à faire péter les play-offs. Après, il y aura le débat de l'extension des contrats. Mais entre l'extension, le coût lié aux extensions de contrats et le coût de remboursement aux partenaires, etc., je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il faut le faire avant de décider de bon. Et donc, c'est vrai que cette incertitude-là, elle est majeure, mais on ne peut rien en faire. Donc, pour l'instant, moi, ce qui est sûr, c'est qu'on a 4 matchs en début janvier. Ça, c'est sûr, quelles que soient les hypothèses, à part vraiment une catastrophe nationale, on va jouer 4 matchs officiels. Donc, au moins, on aura fait, en tout cas pour Serge,
jouer des playoffs ou même des saisons régulières en avril, en mai, en juin. Vous arriverez à avoir des spectateurs dans les patinoires? Parce que je sais que, par exemple, quand vous commencez en novembre, des fois, en septembre, c'est compliqué, les gens ne sont pas forcément OK. Là, avril, mai, juin, avec la pandémie, les gens ils vont vouloir sortir, mais est-ce qu'ils voudront aller dans une patinoire, d'après vous?
Déjà, il y a plusieurs problèmes. Il y a des patinoires qui ferment au mois de mai, qui font des travaux et que les municipalités arrêtent les groupes froids. Donc, il y a plusieurs équipes qui n'ont pas de glace. Là, déjà, c'est un premier gros problème. Sans glace, on ne peut pas faire grand-chose. Mais moi, je ne pense pas. Alors oui, peut-être le mois de juin, c'est plus compliqué. Mais avril, moi, j'y crois même. Je pense qu'on peut faire de très belles audiences en avril. Puisqu'on voit, c'est souvent les moments fin mars et demi-finale ou finale. Bon, c'est des playoffs, les patinoires sont archi pleines. Alors, c'est des demi, c'est des finales. Mais je pense qu'on voit le hand, le basket jouer à ces périodes-là et ils font du monde. Donc, moi, ça me fait pas peur spécialement de jouer jusqu'à là. Mais il y a vraiment un gros problème de contrat aussi. Et puis, les étrangers sont calés sur les dates, les retours, les appartements. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver par la suite. Mais moi, j'y crois. Le public, à cette période-là, ça me fait pas peur.
Il y a un point quand même qu'on n'a pas évoqué et qui, enfin, tout le monde ne le sait pas forcément, mais vous allez avoir des aides j'ai deux points en fait. Vous allez avoir des aides sur les pertes de billetterie, a priori. Et ça, c'est le premier point. Vous me direz ce qu'il en est, si vous avez déjà quelques échos, des choses qui sont à peu près calées. Et le deuxième, c'est vos partenaires là. Ils ont souffert comme vous. Quelle est leur position aujourd'hui? Ils sont toujours à fond derrière vous? Ils se posent des questions? Parce que je pense qu'eux aussi, économiquement, ils ont peut-être été touchés. Quelle est la situation dans chacun de vos clubs?
Les partenaires, en effet, certains traversent des périodes difficiles. Je pense notamment aux traiteurs, restaurateurs et autres. Pour l'instant, on n'a pas de mauvaises nouvelles à déplorer. La motivation aussi de garder notre saison régulière, c'était de pouvoir aussi honorer nos engagements dans les partenariats. On a déjà touché tous, j'imagine, une grande partie aussi de nos partenariats de la saison. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y aura sans doute une partie un petit peu pour la saison prochaine de compensation à imaginer avec eux. Mais on n'est pas, je pense pas que pour l'instant en tout cas il y a de problèmes en tout cas qui puissent mettre en péril les clubs à ce niveau-là. À partir du moment où on peut amener tout simplement les matchs. Après, quand au début, quand tu as pris l'antenne, tu disais un petit peu, Stéphane, je pense, tu comparais un peu les clubs. Je pense que tu as trois clubs qui ont un schéma qui est assez proche les uns des autres, qui s'appuie beaucoup sur la billetterie, beaucoup sur le partenariat. On n'est pas, t'as pas un portrait global des clubs du championnat. Certains, la billetterie a une part beaucoup moins importante. Je pense que quand tu nous entends parler, on est à peu près tous sur la même ligne. Et je dois souligner que dans les discussions actuellement pour mettre en place les choses, les clubs font équipe en ce moment et on veut tous s'en sortir ensemble. Donc chacun est prêt à faire aussi et peut comprendre que les réalités dans certains clubs sont différentes et on essaye, même si des fois des décisions nous arrangent pas à 100%, en tout cas si elles arrangent la totalité, ben, tout le monde s'y rallie. Et je pense que ça va être important pour finir la saison. Après, quand tu parles des aides, oui, sur la billetterie, on a eu les premiers retours hier. Alors, ce n'est pas très clair. On sait qu'on va avoir 4 millions à partager entre plusieurs sports. Donc, je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir 5 millions, hein, si on n'a que 4 millions pour le basket, le handball, le volley et nous, avec toutes les déclinaisons de ligues professionnelles qu'il y a dessous. Et les informations qu'on nous a communiquées, ça nous parle de plafond. On sait à quelle hauteur on peut être plafonné, on ne sait pas du tout à quelle hauteur on va être aidé. Donc là, il y a des dossiers à monter sur la partie billetterie. Après, on a parlé du chômage partiel, qui est la partie qui aide le plus, je pense, les clubs. On parle du fonds de solidarité, on parle de l'exonération des charges sociales patronales, qui nous est déduite sur les mois d'octobre, novembre, décembre. Mais comme on a un chômage partiel, ce n'est pas non plus de très grosses sommes. Mais l'essentiel est sur le chômage partiel. Et je ne pense pas que l'ensemble des clubs attendaient beaucoup des aides sur la billetterie. Et c'est ce qui a amené, j'imagine, au départ, quand ça a tergiversé un peu pour savoir est-ce qu'on peut jouer ou pas. Ça dépendait tout simplement des aides. Tout le monde était capable de jouer des matchs à huis clos à partir du moment où on avait des aides qui compensaient. Après, il fallait y croire ou pas y croire, ou se dire, bah, on est capable de faire peut-être un match et on verra. Comme Stéphane, ils ont fait avec la partie visibilité qu'ils pouvaient apporter à leurs abonnés et à leurs partenaires. Ça fait du sens, mais c'est limité, quoi. Donc là, on commence à avoir quelques directions sur les aides qu'on va pouvoir avoir, mais à dire, on va avoir X euros, on en sait. En tout cas, sur la billetterie, on ne sait pas si ça va ressembler à 50 000, à 100 000 ou à 5 000.
J'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul par rapport au décret que j'ai vu du ministère des Sports qui est sorti le 12 décembre. Et c'est là où effectivement pour moi il y a un flou parce que j'ai entendu comme vous l'information de 4 millions à se partager entre trois clubs, entre trois fédérations. Il y avait ou quatre, ouais, il y avait le basket, le volley, voilà. Là, en fait, dans le décret, ils expliquent que si tu n'as eu des problèmes de billetterie, en fonction de la dépendance que tu as par rapport à la billetterie, tu as un niveau,
Pourcentage.
c'est un
Un pourcentage.
pourcentage, et donc pour le hockey, c'est un pourcentage, avec un plafond de 5 millions pour chaque bénéficiaire. Il est là le plafond. Et alors, je le referai parce que de toute façon, je le publierai précisément, mais j'avais fait le calcul pour novembre et décembre, sauf que dans le décret, il parle bien du mois de juillet au mois de décembre. Donc, il y aura probablement septembre et octobre pour les matchs que vous avez pu faire pendant cette période-là. J'ai pas fait le calcul complet, mais on est à plus, je pense, on est à plus de 1 ou 2 millions pour le hockey. Alors c'est là où il y a un flou. C'est-à-dire que j'ai lu dans la presse 4 millions et quand je lis le décret, j'ai l'impression que ça a l'air un peu plus favorable pour le hockey.
Si tu vois bien ce qui est écrit dans le décret, il parle de plafond. Nous, clairement, on est au-dessus de 9% de taux de dépendance. Tu vois, j'ai rapidement fait le calcul hier. On est à plus de 30% sur le club de Gap sans la vision la plus pessimiste. Donc, on est bien au-dessus et je pense que c'est le cas des autres clubs. Cela dit, c'est marqué 55%. On est plafonné à 55%. Après, on n'a pas joué, on a dû reporter tout un paquet de matchs en espérant pouvoir les jouer. Là, est-ce qu'on met tous nos mains à couper de savoir si on va jouer ces matchs-là? À l'heure actuelle, on ne sait pas. Et on va devoir monter des dossiers. Je pense qu'on va prendre une ligne directive de tous les clubs. Ça va s'organiser ça pour tout simplement aborder cette aide et présenter des dossiers qui soient cohérents les uns par rapport aux autres sur la période où on a raté énormément de matchs. Alors, c'est y compris, je me rappelle, Bordeaux, pardon, s'est retrouvé avec une patinoire où ils n'ont pas pu jouer aussi pendant un temps. Donc, il y a le huis clos, bien sûr, mais il y a aussi toutes les jauges à 1000 spectateurs et les baisses d'affluence. Bon, on s'est fait annuler un tournoi. Donc, l'idée, c'est de comparer le chiffre réalisé entre juillet 2019 et décembre 2020, le comparer au chiffre qu'on a réalisé en billetterie et buvette, pour faire simple, entre juillet 2020 et décembre 2020.
Alors nous, à Cergy, en plus, on a un autre problème, c'est qu'on a l'effet Magnus. C'est-à-dire que, en fait, les aides, elles sont construites sur une hypothèse de perte, sur une saison, par rapport à la saison d'avant. Ben nous, et d'ailleurs, même sur un niveau qui n'est pas prévu en termes d'aide, hein, mais on a fait le chiffre d'affaires sponsoring de l'année dernière, on l'a déjà fait. Sauf que ça ne me suffit pas. Il m'en manque par rapport à mon nouveau budget. Et c'est pareil sur la billetterie. La billetterie, en plus, alors là, tu parlais début septembre. Alors en D1, début septembre, c'était une horreur. On était à 1000 spectateurs, 1200 spectateurs sur les deux premiers matchs, deux, trois premiers matchs. Et donc, en recette, c'était très faible. Là, les deux premiers matchs, alors qu'on était en jauge réduite, on a quand même fait, l'année dernière, les premiers matchs, on était peut-être à 2000 euros, 2500 euros de recettes par match. Là, on était à 7000. Donc, si je compare, et je le ramène à la moyenne match de la période juillet-décembre, non, j'ai pas de perte, bien au contraire. Mais en revanche, je suis très en retard sur mon prévisionnel et donc je pars pour annoncer une perte finale d'exploitation. Mais ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas prévu. Alors, pour être très honnête, je parle assez détendu sur ce point précis parce que j'attends pas d'aide ou si j'en ai une, elle sera véritablement symbolique. Mais à côté de ça, j'ai la chance d'avoir le soutien de notre principal bailleur public, j'ai nommé l'agglomération de Cergy-Pontoise, qui elle va nous soutenir.
C'est une bonne nouvelle. D'accord.
Ah oui, c'est voilà. Et là-dessus, si on peut arriver à jouer avec un peu de public, etc. Ça devrait, en tout cas à notre niveau, nous permettre de respecter les objectifs qu'on a fixés. En revanche, le seul cas de figure qui serait encore catastrophique, c'est de devoir faire une saison en huis clos. Là, ça fait trop. Pas d'économie de dépenses et pas de recettes.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Christophe. Les collectivités locales, elles vous suivent à Gap, à Bordeaux, c'est compliqué parce qu'il y a probablement eu des changements de mairie. C'est un point que j'ai fait avec la mairie de Briançon pendant l'été. Là, j'étais allé les voir pour voir un peu comment ils abordaient le sujet. Toutes les collectivités, et je le sais, moi, à titre personnel, ont des problématiques de budget, réorientent sur plein de choses parce que le Covid fait que, cette crise sanitaire fait qu'il va y avoir des dépenses très importantes dans plein d'autres domaines. Quelles sont les relations en ce moment avec les collectivités ?
Nous, elles sont très bonnes, mais on n'a pas d'infos particulières sur une aide supplémentaire pour l'instant. Je pense que on verra avril, mai. Ce sera une discussion après la saison. Parce que là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu tôt. On ne sait pas si on va jouer toute notre saison, si on va la jouer, après combien il va y avoir de public. Voilà. Ils nous soutiennent depuis des années. Ils ont augmenté notre montée en Ligue Magnus. Ben, ils ont suivi tous. Donc, ils sont là. Ben, les boxeurs sont bien ancrés à Bordeaux, comme l'UBB, les Girondins. Bien sûr, on est en dessous de ces clubs-là, mais on fait partie des clubs à plus haut niveau et clubs pro. Donc, ils sont là. Ils prennent régulièrement des nouvelles du club. Et on est un peu dans le flou, hein, de toute façon, aujourd'hui. Et pour rebondir sur les aides, ben, on va faire les dossiers. On va espérer d'avoir le plus haut possible. On ne s'attend pas à des miracles. Hein. On ne va pas avoir 100 000 euros chacun. Ça, j'y crois pas du tout. Ça serait une très bonne nouvelle, mais j'y crois pas du tout. Mais s'il y a 30, 40, 50, 60, 80, ben, ce sera toujours ça. Ça nous aidera à mieux finir l'année. Mais c'est vrai que déjà, le chômage partiel, les aides qu'il y a eu aussi sur les charges, ben, sont déjà de très bonnes aides pour nous aider à mieux finir encore la saison. Mais aujourd'hui, on est incapable de dire à combien on va finir, puisqu'on n'a aucune visibilité sur le mois de janvier, février, mars, avril. J'ai vu pas mal de reportages des commerçants qui ont été fermés un mois et demi, et qui aujourd'hui sont sur l'année plus haut que l'année dernière en chiffre d'affaires. Donc il y a des gens qui... Ben, ça a eu un effet, ben, frustration chez les gens, et ben, ils sont allés dans les commerces dépenser plus. Et je ne sais pas si nous, on va avoir cet effet-là, de se dire, bah, ils ont été frustrés pendant 3-4 mois, et bah, les patinoires vont être blindées, mais est-ce qu'on aura le droit de remplir nos patinoires? Franchement, octobre, ça a été très compliqué, nous, à vendre des billets. On s'est dit, mais il n'y a pas eu de sport pendant 4-5 mois dans les stades, ils vont se ruer sur les seuls billets, et on n'a pas tout vendu nos places. On n'est pas les seuls. Je crois que Rouen a réussi à faire carton sur les 1000 places, mais les autres clubs ont eu du mal aussi à vendre les billets. Amiens a eu des soucis. Donc, il y a aussi cette inconnue-là qui est un peu inquiétante aussi.
Non, on est dans une situation sur Gap où déjà notre mairie nous soutient et maintient ses subventions. De là à avoir une rallonge, je pense que ça sera quelque chose à voir aussi en fin d'année. On peut pas. En tout cas, nous, le scénario, pour rebondir sur ce que disait Christophe, Si on arrive à mener à bien le maintien de la saison régulière avec ces matchs, 4 matchs à huis clos, nos projections, si ça doit être ça, nous permettraient de finir à la hauteur de nos attentes. Voilà. Et là-dedans, on n'a pas spéculé sur une aide en billetterie. On s'attend à vraiment pas grand-chose. Si par contre il s'avère que ben, pour le coup on touche 100 000 euros qu'on n'imagine pas mais on les touche, et ben, peut-être qu'on pourra imaginer faire beaucoup plus de matchs à huis clos si on est bloqué à ce moment-là après le 20 janvier. Mais on pourra au moins choisir se positionner sur un truc qui semble raisonnable économiquement. Parce que bien sûr que tout le monde aurait préféré avoir les moyens de pouvoir jouer à huis clos. Ça aurait été mieux pour tout le monde parce que caler 3 matchs par semaine pendant 3 mois, ça va quand même être éprouvant pour les joueurs, éprouvant pour les structures à organiser et éprouvant pour nos partenaires forcément parce que remplir des loges 2 fois par semaine, ça va être chaud. On imagine des pertes de toute manière par rapport à une saison normale, même si on n'a aucune... restrictions, on pense que ben, rien que le fait de le concentrer, forcément, on va avoir des pertes par rapport. C'est pas une année normale, ça sera pas une année normale, même si on arrive à jouer tout normal.
Pour résumer la situation, on a une saison qui est un petit peu particulière évidemment. Mais moi, ce que je retiens, alors, on sait pas quand est-ce qu'on va reprendre, on sait qu'on va avoir beaucoup de matchs, on a beaucoup d'inconnus sur l'économie, mais moi ce que je retiens de vos discours finalement, c'est que vous restez optimiste, et ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on va revoir du hockey, qu'on va pouvoir revenir dans les patinoires, je l'espère très bientôt. On fera un suivi au cours du mois de janvier, on essaiera de vous réinviter pour voir un peu comment ça se passe, le suivi. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que je pense que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de travail pour aller récupérer ces aides. Nous, on va faire je vais redécortiquer le décret et on va refaire le calcul, parce que j'ai fait un premier calcul, et par rapport à ce que vous me dites, je suis très optimiste. Par rapport à ce que vous me dites, ou si on arrive à avoir 100 000 euros ou autre, moi, dans mes calculs, on est sur des sommes plutôt intéressante pour chacun de vous. Donc, je le publierai dans les prochains jours. Mais je vais retravailler le sujet. C'est le moment de l'émission, parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour. On pourrait encore en dire beaucoup. Et je préfère qu'on fasse le suivi tout au long de la saison avec vous, ou peut-être avec d'autres clubs. Je vais vous faire entendre un petit jingle. Parce que c'est notre vision des choses. Le sport, c'est bien, mais le sport et la culture, c'est les deux jambes pour faire avancer l'humain. Donc, à chacun d'entre vous, je vais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a marqué ou que vous lisez actuellement. Je vais commencer par toi, Stéphane.
Je peux parler, moi, plutôt d'une série ?
Bien sûr.
Alors, oui, c'est vrai que je n'étais pas très série. Il faut savoir que j'ai tenu un vidéoclub il y a 15 ans, donc je vis pendant 10 ans, à l'époque des vidéoclubs, donc je suis très, très cinéma. C'est vrai que les séries, depuis un petit moment, ça, je m'y mets tranquillement. Et c'est une série sur Canal, mais qui est ancienne, c'est Engrenage. Je l'avais pas regardé. J'ai regardé au premier confinement, justement, le Bureau des légendes, que j'ai trouvé très, très bon. Et je me suis mis dans Engrenage et j'ai tout enchaîné là. Et c'est très bon. J'ai trouvé le jeu des acteurs et surtout les enquêtes très intéressantes et bien menées. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié cette série dernièrement.
Et SRJ ?
Alors moi, c'est ni un film, désolé, c'est ni un film ni un livre, mais c'est un metteur en scène, Martin Scorsese, pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. Parce que il y a. En fait, ça recouvre un peu déjà des genres que j'apprécie énormément. Et puis, cette façon de raconter des histoires. C'est à
la
chaque
mafia,
fois
c'est la
un
mafia,
régal.
J'aime bien Christophe.
Mais il n'y a pas que la mafia. Alors après, il y a la mafia aussi de la bourse ou d'autres choses comme ça. Mais il a une façon de raconter. C'est à la fois grandiloquent. C'est pour moi puis il y a un deuxième réalisateur, tant qu'on y est. C'est Quentin Tarantino pour son sens de l'esthétisme. Et son sens de la perversion.
Et dans mes chères Hautes Alpes.
Moi, c'est plus sur un bouquin que je suis en ce moment. Je pense que couper la télé, ça fait du bien. Là. BFM à proscrire en ce moment, même si on se doit d'écouter un petit peu. Mais il faut se faire du bien à la tête. Moi, je lis un bouquin en ce moment, c'est La méthode Wim Hof. L'homme de glace là, qui a des techniques de respiration et d'exposition au froid. Et ce deuxième confinement m'a amené à essayer de prendre de la distance par rapport aux choses. Après, c'est dangereux ces questionnaires-là parce que j'avais un peu peur de la réponse de Stéphane sur les séries. Là, je m'attendais à ce qu'il parle de Sex and the City ou un truc du genre. Là.
Seb, on a bien changé à l'époque où on jouait ensemble à Bordeaux, justement. On évolue.
C'est ça. J'ai connu le vidéoclub de Stéphane.
Eh bien, écoutez, merci pour ces propositions. À un moment, on fera une bibliothèque, une filmographie de l'ensemble de nos invités. Je tenais vraiment à vous remercier pour le temps que vous nous accordez dans ces moments compliqués. Et puis, comme je l'ai dit, je le redis, on fera en sorte de faire le suivi. Parce que pour nous, c'est important de suivre un petit peu la Ligue Magnus. Merci Stéphane.
Merci Brice, merci Christophe, merci Seb.
Merci Christophe. Merci Sébastien.
Merci à tout le monde.
Merci.
Et puis à bientôt. Et puis passez de bonnes fêtes quand même. Hein, puis on va essayer de tourner la page de cette putain d'année 2020.
Nous, on va continuer. On va demander à nos auditeurs de nous suivre sur les différentes plateformes. Et puis on reviendra en janvier avec d'autres sujets, d'autres thématiques. Merci à tous nos auditeurs et à très vite.